Bien. Merci d'être là. Mais si, si vous me permettez de profiter avant que vous attaquiez, je vais profiter pour vous annoncer une ou deux choses, vous faire part un ou deux petits soucis. Le premier, c'est le nombre de membres militants qui nous manquent actuellement, c'est-à-dire que notre conseil d'administration est en train de se réduire. Donc, on se dit, il faudrait trouver une formule pour que des gens, des jeunes, ou un peu moins vieux, rentrent aussi parmi nous. Et pour cela, si tous ceux qui connaissent des gens, des jeunes, ou du moins jeunes, qui ont des centres d'intérêt importants, ça vaudrait la peine de leur proposer de venir parmi nous et présenter leurs sujets, leur présenter leurs envies, etc. La deuxième chose, c'est une bricole. On a décidé cette année de faire une pause en ce qui concerne la distribution de boissons ou de biscuits. Après la séance, on a repéré que ça pouvait être un peu lourd, ça pouvait faire du travail pour certains, ceux qui s'occupaient de ça. Donc on a dit cette année, on arrête. Et si vous avez des idées, qu'est-ce qu'on veut faire plutôt que de ne rien faire, on compte sur vos idées. Ça, c'était les préoccupations. Ensuite, les projets. Il y a donc un concert qui, bien que n'ait pas encore l'autorisation officielle, aura lieu le 30, c'est-à-dire le dimanche, enfin, le samedi d'après. Pas ce week-end, celui d'après. Concert de trompette avec Pierre-Marie Charot et M. Jeurne. Et ces gens-là, pour moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien ces gens-là, j'aime bien le travail que ce Pierre-Marie a fait, tout en ayant une responsabilité, beaucoup de responsabilité. Un type qui arrive à faire de tels progrès avec la trompette, pour moi, ça passe sous les évidences. Si, ça fait envie de lui trouver une occasion de venir nous présenter ce qu'il fait. Alors voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, Yannick nous propose pour cet automne un voyage en Italie. Alors, est-ce qu'on en parlera quand vous aurez fini?
Probablement, oui.
D'accord. Est-ce que ça fait un moment qu'on ne fait rien? Or, les voyages d'avec, ça a toujours été...
On fait plus rien parce qu'on ne pouvait pas faire.
Oui, c'est... les voyages d'avec, ça a toujours été un changement.
On s'en souvient.
Cause épidémique.
Voilà, oui. Mais en même temps, c'est un moment qui permet de souder les gens. Pendant qu'ils sont dans le gare roule, on a le temps de discuter un peu. Quand on sort, on discute. C'est un bon moyen de se rencontrer aussi. Voilà, dernier... petite annonce, c'est que la semaine prochaine, ça sera un certain Stéphane Henriquet qui prendra la place de Yannick. Et lui, il est spécialisé dans le relevé des comptes savoyards, ceux qui remontent le plus loin possible, ceux qui sont reconnus comme étant vraiment lauriers ou même parrains parfois. Voilà. Et bien maintenant, c'est la place à Yannick. Il va nous parler d'un sujet qui, moi, m'a frappé. Parce que dans cette période d'épidémie, trouver un roi ou un duc capable d'arrêter l'épidémie, c'est rare.
S'il a vraiment réussi à l'arrêter, c'est tout le jeu de l'enquête. Hein. L'histoire, vous savez, n'est pas seulement un empilement de faits et de dates. Elle est souvent le révélateur de mutations dans la société, quand on sait lui appliquer les bonnes clés de lecture. Et souvent, les périodes épidémiques, les crises, révèlent ces mutations, révèlent ces changements. Et si on pouvait le traduire dans des mots plus simples, on pourrait dire il n'y a pas de complot, il y a des épidémies presque d'origine naturelle. Mais à qui profite finalement l'épidémie à la fin? Qui est le grand bénéficiaire de la crise? Qui récolte les fruits de la crise une fois qu'elle est passée? Eh bien, ce que je vous propose, à quelques siècles d'écart avec le Covid et... avec, vous allez voir, des analogies qui sont tout à fait frappantes, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette peste qui a menacé la Savoie à partir de 1720, qui n'a fait que zéro mort, sinon trois, c'est-à-dire les trois responsables qui étaient à l'origine de la défense de la Savoie, qui ont été condamnés à mort, dont l'un exécuté en place publique à Chambéry en 1724, Comprendre ce qui s'est joué derrière cette défense de la Savoie en 1720 contre la dernière peste d'Europe, qui est la peste de Provence, qui s'est déclarée à Marseille, donc en ce début du XVIIIe siècle. On célèbre souvent, dans l'historiographie, donc c'est-à-dire dans l'histoire de l'histoire, hein, de la Savoie, l'apparente réussite de la gestion anti-crise, en quelque sorte, anti-peste, hein, des autorités, sous l'emprise nouvelle de la bureaucratie, du centralisme d'État, de personnages qu'on appelle les intendants de Savoie, qui sont les agents du pouvoir central, c'est-à-dire de Turin, et des mesures de police qui commencent à contrôler la population. Voilà. Souvent, on dit, voilà, c'est un modèle d'efficacité, c'est la Savoie, la monarchie administrative, tout est bouclé, et c'est pour ça que la peste n'est pas passée. Bon, moi, j'ai voulu aller voir un petit peu plus loin comment ça s'était passé, vous verrez qu'en réalité, c'est bien différent de ce qu'on imagine. Alors, pour nos amis touristes, je ne sais pas s'il y en a, hein, ou pour ceux qui ont besoin d'un rappel, le duché de Savoie était un État indépendant, il faut le rappeler, qui faisait partie d'un territoire composite qu'on appelle les États de Savoie au pluriel. Nous sommes ici dans le duché de Savoie, donc la partie qui est située à gauche de la carte. Hein, et puis, cet État est composite, il comporte aussi le Piémont, comme vous voyez, et puis après 1718, la Sardaigne, et n'oublions pas le comté de Nice, au bord de la mer Méditerranée. Tout cela réuni avec un seul prince, le duc de Savoie, le duc de la famille de Savoie. Hein. Voilà pour le cadre géographique. L'épidémie de 1720 dont nous allons parler est somme toute marginale dans l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a fait que 200 000 morts contenus à la Provence. Alors si on compare avec les autres pestes, la peste noire de 1349 par exemple, qui aurait peut-être tué un tiers, voire la moitié de la population européenne, ou celle des années 1630, qu'on connaît bien ici, ou 1648 en Savoie, ou encore 1583, qui ont peut-être tué jusqu'à un sixième de la population. C'est une épidémie un peu marginale, un peu délaissée par les historiens. Et comme je vous l'ai dit, la Savoie n'aurait connu peut-être que quelques morts, et officiellement trois, et encore c'est pas la peste, puisque c'est des exécutions publiques. Il faut dire que la conjoncture de cette période aide quand même les hommes. C'est la paix en Europe dans cette période, la paix depuis 1713, et donc il n'y a pas de circulation de soldats avec lesquels, généralement, la peste arrivait à se propager à la vitesse de l'éclair à l'intérieur du continent européen. Il n'y a pas de famine, les paysans sont robustes, donc résistent mieux aux maladies. La croissance de l'autorité de l'État impose des premières mesures de contrôle social. Là, je vous ai mis, par exemple, dans le Vaucluse, ce qu'on appelle le mur de la peste de Provence. Hein. Le Conseil de Régence, c'est pas encore Louis XV en France, a fait construire un mur, on a barricadé la Provence, et on a empêché les gens de circuler. Hein, c'est des mesures de gestion sanitaire telles qu'on pourrait les voir et qu'on les a connues au temps du Covid. Hop, elles s'appliquaient dans ces périodes-là, et on empêchait la propagation de la peste. Donc tout cela, au sens strict, participe déjà à la limitation de la propagation. La lutte contre l'épidémie provençale est donc au premier abord un succès éclatant de l'État savoyard. La peste n'est pas rentrée en Savoie, selon les autorités officielles, et ça permet à l'État de s'afficher comme une institution de service public, qui est une notion nouvelle du XVIIIe siècle, le bien public. Le service de l'État au service du citoyen, nous prenons en considération votre sécurité, on vous impose des mesures strictes, etc. Chose qui n'existait autrefois qu'à l'échelle de la ville, du village, mais que l'État ne prenait pas. Hein, c'est le XVIIIe siècle qui invente l'autorité de l'État. Et justement, cette peste de Provence, elle installe l'autorité de l'État, et je vais vous montrer comment. Alors paradoxalement, les artisans de ce succès, ils sont trois, hein, à l'échelle de la Savoie, le gouverneur de Salles, qui est le chef de la police en Savoie, hein, château de Chambéry, l'avocat général Audet, qui est un petit peu le rapporteur du Sénat de Savoie, et l'intendant général de la Savoie, Riccardi, qui est un piémontais, et qui est un petit peu les yeux et les oreilles du prince à l'intérieur de notre province. Eh bien, ces trois personnages qui ont victorieusement lutté contre la peste de Provence sont tous condamnés à mort à l'été 1724. L'historien doit donc s'interroger sur ce que ce paradoxe révèle. En quoi les gens qui ont sauvé la Savoie doivent-ils être condamnés à mort et qu'est-ce que ça cache ? Et donc, la question qui est au centre, voilà, c'est en quoi le contrôle social dans le duché durant la peste de Provence révèle un basculement, peut-être, en faveur de l'accroissement de l'État, de l'emprise de l'État sur la vie de tout le monde et sur la vieille société, hein, la vieille société qu'on pourrait presque dire encore féodale. Comment la crise a profité à l'État ? Et toute proportion gardée, comme peut-être le Covid l'a peut-être permis dans la société contemporaine. Donc, analyse. Alors, les sources, contrairement aux autres pestes, elles sont généralement silencieuses, les sources. Là, on en a. On a des sources parce que il n'y a pas eu des dizaines de morts, la vie ne s'est pas arrêtée, etc. Donc, on a énormément de sources. Ce sont d'abord les sources des archives départementales de la Savoie. Donc, on a quand même le procès, la condamnation à mort, les registres du Conseil de santé, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que cette institution, et puis surtout à Turin, on a les actes de la Haute Cour de justice qui a jugé les trois personnages, et puis les lettres de particuliers, c'est-à-dire une série de lettres que les intendants, les gouverneurs, etc. ont laissées, qui peuvent se monter à 300 ou 400 pièces parfois par personnage, et qui nous permettent d'avoir une vision à peu près globale de ce qui se passe durant ces 4 années entre 1720 et 1720. Alors, pour comprendre ce basculement du contrôle d'État, je vous propose 5 étapes. Déjà, un petit mot sur la dernière peste d'Europe de 1720. Donc, qu'est-ce que c'est cette peste? Comment on doit bien comment le duché de Savoie est armé face à cette peste? L'affaire. Qu'est-ce que l'affaire qui retentit presque de 4 ans après? Le travail du magistrat de santé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ont fait les Savoyards dans cette période-là? Et puis, voir finalement les aboutissants de l'affaire, c'est-à-dire est-ce que vraiment on a empêché les gens de passer dans cette période, et est-ce que finalement ça n'a pas profité à certaines catégories sociales, cette peste, elle n'a pas été mise à profit, ou il n'y a pas eu quelqu'un à qui profite le crime, en quelque sorte. Donc il y a des systèmes de corruption en dessous, et vous verrez, c'est pas triste. Alors, commençons d'abord notre histoire avec un mot sur la dernière peste d'Europe, qui a lieu officiellement entre 1720 et 1722, on l'appelle la peste de Provence, on dit aussi la dernière peste de Marseille, parce qu'il y en a eu une autre qui a touché la Savoie en 1583, et qui s'appelait la peste de Marseille cette fois-ci, et qui s'est arrêtée à peu près à la frontière de la Suisse. Alors le 25 mai 1720, la peste débarque littéralement à Marseille. Là vous avez la carte de la rade de Marseille, Marseille en rouge, les îles du Frioul, les îles de Pomègue par lesquelles arrivaient les bateaux. Alors je dis, la peste débarque littéralement, parce que oui, elle débarque par bateau. Un navire, le Grand Saint-Antoine, un navire à mât, en provenance de Syrie, des échelles du Levant, décharge dans des conditions négligées. Une cargaison de balles de coton, probablement contaminée par des rats porteurs du bacille responsable de la peste. C'est le schéma classique, depuis la peste noire, débarque dans les ports européens des bateaux avec des rats contaminés, et la puce qui transporte le bacille est sur le rat et se développe ensuite de manière exponentielle dans les villes qui sont des mouroirs, elles sont très sales. Et puis ça voyage avec les marchands à la vitesse de l'éclair. Ces balles de coton, on les retrouvera dans notre histoire. Elles sont assez importantes car leur destination est la foire de Beaucaire, où la Savoie s'approvisionne. Les Savoyards vont à la foire de Beaucaire acheter du coton et viennent tisser du coton dans la province. On savait que l'équipage du bateau était contaminé, mais une partie de la cargaison appartient à plusieurs notables de Marseille, dont le premier échevin, c'est le maire de Marseille, Jean-Baptiste Estelle, qui contourne, selon l'historiographie traditionnelle, les mesures de quarantaine pour accélérer la vente. En effet, le bateau est arrivé avec retard, on est à moins de 40 jours de la foire de Beaucaire, et donc on s'arrange pour faire transiter les balles de coton le plus vite possible pour aller les vendre. On a besoin de sous. À cette époque, la quarantaine sur les îles de Pomègue est gérée par un conseil de santé qui est composé de 24 intendants volontaires, dont vous avez le bâtiment ici, et une institution à l'origine de 1622. L'État n'y intervient pas, l'État français évidemment, et il n'a pas été difficile de faire des entorses au règlement. Ils sont rangés entre marchands, ils sont fait un petit micmac entre eux. Très vite, la peste se propage dans les quartiers à proximité du port, puis dans la cité où elle entraîne entre 30 000 et 40 000 décès sur 90 000 habitants. 30 000 à 40 000 décès, on parle de 40 000 décès en 3 ou 4 mois. Puis dans toute la Provence, elle fait entre 90 000 et 120 000 victimes en 2 ans sur une population de 400 000 habitants environ. L'extension est rapide. À l'été 1720, la peste est connue en Gévaudan, donc on est dans les contreforts du Massif central, décime le comtat venaissin, Avignon devient un véritable mouroir, elle arrive à Valence, aux portes du Dauphiné. Le conseil de régence, qui gouverne alors la France, avec Louis XV trop petit pour régner, donc il y a un conseil de régence, la famille d'Orléans qui règne, réagit fermement en envoyant l'armée pour contenir l'épidémie et abandonne la Provence à son sort. Donc on ceint la Provence de murs et on met un cordon de soldats pour empêcher de passer, et c'est assez efficace. et on laisse tout ça, la Provence, à son sort, aux faibles remèdes de l'époque, j'en parlerai un petit peu, aux religieux et aux proto-médecins, qui n'arrivent pas à guérir grand-chose. En octobre 1720, la peste se met à reculer dans Marseille. Vous voyez, quand on arrive en octobre, il n'y a presque plus de cas, hein, selon les historiens, qui est complètement déserte. Le fait d'avoir cloîtré les gens chez eux, ça arrête l'épidémie, un petit peu comme le Covid. Le commerce reprend doucement en février 1721. Il n'y a plus que 1 à 2 morts par jour de la peste. Mais des pointes épidémiques sont enregistrées de manière confuse dans plusieurs villes, dont Avignon, Marseille, Nice. Là, à Venançon, vous voyez, on n'est pas loin de... On a une chapelle hein, qui montre un dessin des années 1720, hein, qui montre encore la peste. À partir d'août 1722, l'épidémie est enrayée. Il n'y a plus aucune trace de la peste. Elle a disparu presque miraculeusement. Hein. Et donc, voyons maintenant comment a réagi la Savoie dans ce contexte-là. Hein, ça, c'est pour le cadre général. Alors, le duché de Savoie face à la peste. Les épidémies de peste qui traversent régulièrement la Savoie sont bien connues des historiens. Nicolas Gréloux, dont la chaire des agrégés du lycée Vaugelas de Chambéry est celle que j'occupe aujourd'hui, hein, puisque j'occupe son poste, a fourni l'étude pionnière en la matière en 1972, hein, la peste en Savoie. Sachez que c'est la seule étude existante vraiment sur le sujet, qui n'a pas l'équivalent à Nice ni en Piémont. Donc tout reste à faire dans ce domaine. Alors lui, il s'arrête justement aux années 1720 et de la peste de Provence, et n'en parle presque pas dans son étude. Hein. C'est vraiment le XVIIe siècle, mais c'est très fouillé, hein, vous voyez, XVIe et XVIIe siècle. Mais on a les renseignements sur le cadre, c'est-à-dire les cadres institutionnels pour lutter. Qu'est-ce qu'on faisait avant dans le XVIIIe? À la suite d'une autre peste, donc qui est celle de Marseille, 1583, l'État savoyard, en quête de centralisme, parce que c'est une quête de croissance de l'État, avait pris d'importantes mesures pour contrôler les épidémies. Il faut se rappeler que les États de Savoie avaient failli disparaître. Il y a un moment, la Savoie a failli disparaître, au XVIe siècle, absorbée par la France, et qu'une paix, en 1559, avait fait renaître le territoire, la Savoie avait renaît, et que ces nouveaux princes entendaient administrer de manière moderne, donc c'est Emmanuel Philibert, hein, efficace, centralisé, depuis la nouvelle capitale, ils avaient abandonné Chambéry, ils sont allés à Turin. Hein. Alors sur le modèle vénitien, puisque le modèle c'est la grande ville de l'époque, la grande ville de l'Occident au Moyen-Âge, c'est Venise hein, quand même, sur le modèle vénitien, Emmanuel Philibert avait répandu une institution qui était déjà pratiquée un petit peu à Turin, hein, enfin du Moyen-Âge, c'était le magistrat ou le conseil de santé. Hein, une institution, le magistrat ou le conseil de santé. Un espèce de conseil de défense sanitaire, vous voyez, comme on a connu récemment, un magistrat de santé, c'est-à-dire un conseil qui ordonne qu'est-ce qu'on doit faire pour l'État. Alors, dans le duché de Savoie, l'institution était introduite là où il y avait des sénats, c'est-à-dire là où il y avait l'autorité locale. Donc pas partout, hein, on est bien d'accord. L'édit du 7 août 1583 du roi Charles-Emmanuel Ier introduit en Savoie le magistrat de santé sur le modèle de Turin. Donc à Chambéry, il y a un magistrat de santé, un conseil de défense sanitaire, si vous voulez, le magistrat de santé, qui s'installe de manière permanente. Le comté de Nice en est doté en 1614. Et la dernière ville du duché de Savoie à avoir un sénat en être doté, c'est Casals en 1708. Il va y avoir la Sardaigne après, mais ça c'est un autre sujet sur lequel je ne m'attarde pas, parce que là-bas les épidémies c'est tous les 2 ans. Hein, donc je laisse de côté la Sardaigne. Nicolas Gréloux a montré en Savoie comment le pouvoir de ce conseil sanitaire, cette espèce de conseil de défense, était adossé aux autorités locales, dont il ne pouvait se passer. Hein. C'est le contraire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le conseil de défense sanitaire à Paris, il gère tout sans demander l'avis localement. Voyez, à l'époque, il y avait des conseils de défense sanitaire, le magistrat de santé, mais on ne pouvait pas se passer de l'autorité quasiment moyenâgeuse des sénats. C'était impossible de mettre en place des mesures sans avoir l'épaule des magistrats qui enregistrent les lois, vous voyez ? C'est ça le problème. Donc ce conseil, il est installé à Chambéry, et il est installé pas loin du Sénat de Savoie, qui était place Saint-Léger, à Chambéry, dans cette période. En effet, ce conseil est placé sous la présidence du gouverneur, donc souvent c'est un Italien, un Turinois, hein, qui doit faire régner la police dans le duché, mais il était composé de sénateurs, c'est les sénateurs hein, qui rentrent dedans, et de quelques médecins patentés. Et encore, quand je dis des médecins patentés, c'est-à-dire qui ont obtenu une autorisation, souvent les médecins, ils sont de la famille des sénateurs. Ça se fait tout en famille. Hein, c'est des aristocrates, hein. Ce sont des réseaux de notables. Rappelons que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, là vous avez les insignes du souverain de Sénat de Savoie, vous avez, Savoie c'est la force, hein, c'est la massue, la masse d'argent, hein, ici. Les sénateurs sont presque les maîtres de la Savoie au XVIIe siècle. Ils enregistrent et peuvent amender les lois du prince, ils servent de juges d'appel, et leurs membres vont peupler la chambre des comptes qui dépense et récolte l'impôt. Autant dire, ils ont la justice, la fiscalité, et c'est eux qui font presque les lois dans le pays. Même si le prince est à Turin, ils ont presque un pouvoir collégial sur la Savoie. Hein. Ce sont eux qui proposent au gouverneur les noms des médecins, proto-médecins, apothicaires, barbiers, qui constituent l'ossature de la santé publique, dont ils sont souvent apparentés, comme je vous l'ai dit, hein, ce sont des réseaux. Autant dire que sans les sénateurs, sans ces notables, sans ces familles d'aristocrates, le pouvoir princier n'avait aucune autorité dans le duché. Il faut que ça passe avec ces gens associés. Alors le magistrat de santé, dont vous voyez ici les courriers, pouvait rédiger des manifestes, émettre des sortes de sentences, une faculté de juger sommairement, sans être une cour de justice, mais ça passait au-dessus des lois par mesure d'urgence, vous voyez, c'est quand même une institution importante, hein, au nom de la santé publique. Ça nous rappelle le Conseil de défense sanitaire récent. C'est donc une institution à double tranchant. C'est à la fois un outil pour les aristocrates locaux pour s'affirmer en disant « oui, c'est nous qui maîtrisons la Savoie », mais c'est aussi un aiguillon par lequel l'État peut s'introduire et puis contourner les aristocrates locaux et faire passer des mesures qui seraient contraires aux autonomies locales, vous voyez. Et les pestes, les épidémies, ben ça sert à contourner les autonomies locales, souvent. Une voie toute tracée pour réduire l'autonomie. Pour qui ? Pour ce personnage, qui est Victor Amédée II, donc c'est notre duc qui va devenir roi de Piémont-Sardaigne en 1718. D'abord roi de Piémont-Sicile, puis roi de Piémont-Sardaigne en 1718. Et donc il est promoteur de la réforme administrative des États. Lui, il veut avoir un pays qui soit à l'image de la France, c'est-à-dire centralisé, et réduire ses fameuses autonomies. Donc c'est pour lui. C'est donc naturellement avec la création des intendants dans cette période qu'on va placer ce personnage dans le magistrat de santé pour essayer de tout contrôler. Alors rappelons que les intendants, sorte de préfets du prince, sont apparus dans les États de Savoie sous Victor Amédée II pour régler les dépenses de guerre et diminuer l'évaporation fiscale entre les grands seigneurs, la chambre des comptes et les caisses centrales. Alors à l'origine, là, vous en avez un, que l'intendant Grompel, tous des Piémontais qui viennent en Savoie, on s'était aperçu que entre le contribuable, la chambre des comptes, ou entre le contribuable, les grands seigneurs féodaux qui récoltent l'impôt, ce qu'ils ont le droit de le faire, et l'État, il y avait de l'évaporation. Il y avait des abus. Il y avait de l'argent qui était dépensé. Alors c'est toujours justifié, hein, mais en réalité, c'est des dépenses de tournée, c'est des repas, il y a de l'argent qui s'évapore. Alors on veut supprimer tout ça, et on met un intendant à la place, qui vient tout surveiller, qui dit, ah, cette dépense-là, elle n'est pas, pas nécessaire. Je ne vous la rembourse pas. L'argent file à Turin. C'est ça, l'intendant. Il vient, ça apparaît comme ça. Le premier apparaît à Pignerol, donc c'est dans les vallées vaudoises, hein, il y a une lutte contre l'hérésie, 1661, et le deuxième à Savoie, en 1686. Alors l'intendant général de la Savoie, il est d'abord membre du magistrat de santé à titre personnel. Au départ, on le parachute là-dedans, mais c'est pas lui, il n'a pas d'autorité. Hein. On le parachute pour surveiller un petit peu ce qui se fait. Et puis en 1717, il y a les royales constitutions, et là, l'intendant, c'est presque le président du magistrat de santé. Donc, vous voyez, on voit comment l'État s'immisce dans les affaires sanitaires. Donc, pour en faire un outil de contrôle social très important, qu'on justifie toujours par les dépenses, la fiscalité. Cette tutelle de l'État, on peut parler de tutelle, hein, comme un grand frère qui vient tenir le petit en dessous, là. Cette tutelle est un phénomène de pouvoir nouveau, propre au XVIIIe siècle. Ce phénomène permet d'apprécier la naissance et l'action de prise en charge et de contraintes très précises visant à installer l'autorité et la protection de l'État. C'est pas moi qui dis ça, c'est Michel Foucault. Hein, vous savez, c'est un grand philosophe de l'État. Il permet aussi de mesurer comment, dans une crise, l'État renforce son autorité et en vidant certaines institutions de leur sens, en venant vider l'institution locale et en captant tout ça au profit de la centralité. Donc, En voyant ça, vous voyez, la citation de Michel Foucault ici, hein, phénomène de pouvoir plus particulièrement, action de prise en charge de contraintes très précises visant à installer l'autorité et la protection de l'État, on se croirait dans le Covid, hein, quand on lit ça. Hein. On est dedans, hein. On est dans ce moment-là. Alors, une fois le cadre posé, comment l'intendant, qui est cette émanation de l'État, contraint à l'efficacité fiscale, a-t-il expérimenté ce contrôle social pour lequel il n'a aucune autorité, hein, il arrive dans un monde où c'est pas lui qui normalement gouverne, lui il vient juste surveiller, alors que la peste de Provence isolait le duché et rendait son économie exsangue, hein, qu'il n'y a plus de commerce. Donc c'est toutes ces contraintes-là qui se mettent en place, et quand éclate la peste, eh bien il va falloir trouver des solutions. Alors, maintenant je vous propose une explication à la faite entrer l'accusé, hein. On commence par la fin et ensuite on démêle la pelote de laine. Hein. On va faire un bond de 4 ans, on va aller en 1724, et on va aller voir cette affaire retentissante à propos de la gestion de la peste de Provence dans le duché. Rappelons qu'il n'y a eu aucun mort, que la peste officiellement n'est pas passée, et que, normalement, les personnes qui étaient au pouvoir dans cette période, l'intendant, qui a la tutelle sur le magistrat de santé, a fait du très bon travail, il n'a pas dépensé un rond pour l'État, il a contenu la peste et il est même devenu célèbre pour ça. Il est loué par le roi, récompensé, il a une pension, etc. Et tout d'un coup, hop, il y a un procès, on les condamne tous à mort. Alors, l'affaire. Faisons un bond dans le temps. Hein. Voici un document. Parère et écriture regardant les manquements du Sénat de Savoie, du magistrat de santé, de l'avocat général et de l'intendant pour ne pas avoir donné avis à la cour des abus du comte de Sales, qui était gouverneur, pour avoir introduit des personnes et des marchandises provenant des régions suspectes de mal contagieux durant l'épidémie. Ça veut dire que durant toute la période de la peste, il y a plein de gens qui ont circulé entre la Provence et la Savoie. Et ça n'a posé aucun problème aux autorités locales. Or qu'on disait à Turin, bah non, mais personne qui passe, on surveille, c'est pas un souci. Voilà. Alors, comment ça éclate, cette histoire? Le 20 mai 1724, il y a un nouvel intendant qui s'appelle Don Louis Lauvert, encore un piémontais, qui reçoit sa commission d'intendant en Savoie, et à son arrivée en juillet, il doit juger son prédécesseur, qui est à l'écran, donc c'est Ricardi, hein, et par délégation particulière, une procédure criminelle, avec délégation de pouvoir spécial du Sénat de Turin, contre 3 anciens membres du magistrat de santé. Alors, le comte de Sales, gouverneur de la Savoie depuis le 18 juin 1721, donc le comte de Sales, apparenté à la famille de l'évêque, hein, celui qui a combattu les protestants, noble savoyard de 71 ans, vénérable grand-père, ancien commandant en Piémont, vibailli d'Aoste, il a été, qui est aussi un homme d'affaires redoutable, dont l'enquête montre les réseaux de clients dans le commerce des étoffes entre la Provence, le Val d'Aoste et la France. Hein, et ce personnage va chercher son coton à Beaucaire, évidemment. L'avocat général Audet, du Sénat de Savoie, dont l'instruction a disparu, ce qui est bizarre, comme si on avait voulu faire disparaître toute trace dans le Sénat de Savoie d'un de leurs membres, voilà. Et l'intendant général Francesco Ricardi, un avocat niçois, issu des cercles de clients du général des finances de Turin, donc c'est une sorte de ministre des finances qui s'appelle Vincenzo Ferrero d'Ormea, qui est le préféré du roi Victor Amédée II, qui est l'applicateur de la réforme administrative voulue par le roi et qui est celui qui a supprimé la Chambre des comptes en Savoie en 1720. Vous voyez, renforcement de l'État, hop, il a supprimé la Chambre des comptes. Il pratique cette politique de la suppression et il est par définition le mal-aimé des sénateurs. C'est l'ennemi des sénateurs, ce gars-là. Hein, vous voyez, bon. Alors, tout a démarré d'une banale affaire. Pourquoi on en veut à ces trois hommes? Le 23 septembre 1723, donc on est une année après la peste de Provence, mais la peste sévit encore dans des villes, vous voyez, il y a des petits foyers comme ça. Alors que cela fait 3 ans que sévit la peste en Provence et que le magistrat de santé, sur ordre du roi, a fait fermer, sous peine de la mort, toutes les frontières avec la France, une arrestation de contrebandiers dans la région du pont de Beauvoisin, vous voyez, démontre l'existence de passeports illégaux. Il y a des passeports illégaux, on peut passer. Ceux-ci, ces passeports, sont délivrés par le gouverneur de Sales au nom du magistrat de santé. Croyant bien faire, un des avocats du magistrat a envoyé les passeports à Turin, au lieu de laisser tout ça en Savoie, sans passer par le canal de l'intendant Ricardi, c'est-à-dire que, directement, il a envoyé les passeports sans demander à ses supérieurs. Vous voyez, comme s'il avait voulu se venger. Bon, il y a un sale coup, hein, là, derrière. Il a envoyé les passeports à Turin. L'enquête montre que le gouverneur a produit 264 passeports en 3 ans, ceux qu'on a retrouvés, hein. 264 en 3 ans, c'est pas mal, dont 30 permettent la production de marchandises venant de France, dont du coton. Malgré l'interdiction totale d'admettre les Français, ça c'était le 3 octobre 1721, ordonné par le roi et le magistrat. L'interdiction de toutes les marchandises de France, ça c'était le 27 novembre 1722. Le magistrat et le Sénat auraient, sous l'ordre du gouverneur et de l'intendant, continué à appliquer la première disposition qui permettait d'introduire des marchandises françaises sans hommes, bonnets, coton, chemises, mousselines, plumes, selon des règles de santé. Alors qu'est-ce que la règle de santé à l'époque ? C'est le passage au cordon enflammé, c'est-à-dire à la frontière, les marchands déposent leurs ballots, font un bond de 200 mètres en arrière, les Savoyards arrivent, ils passent des cordons de l'encens, enfin ils fument tout ça, hein, voilà, ils laissent s'exposer ça au soleil pendant une demi-journée, ou presque la journée entière si ça ne pleut pas, on récupère les marchandises et on les passe de l'autre côté en portant des tabliers, des masques, etc. et tout ce qui va avec. Donc, ces procédures étant respectées, on pouvait faire passer des marchandises. Mais rapidement, ça a été interdit de faire passer ces marchandises-là. Et on a continué à le faire. De plus, on souligne les mensonges des nombreuses autorités sur le contrôle des populations. Dans le procès, c'est écrit « Le manquement du Sénat et spécialement du magistrat de santé, qui, bien loin de s'opposer au passeport que le dit gouverneur accordoit pour l'instruction des personnes et des marchandises suspectes contre les ordres du roi, n'ont pas seulement porté la moindre plainte à la cour, au contraire, celui-ci a même osé par ses lettres lui faire des éloges que tout allait bien auprès d'elle. Hein ? » En gros, on se moque du roi en Savoie, hein, et on lui fait croire que tout va bien, alors qu'en réalité, on fait ce qu'on veut, hein, localement. L'intendant général Ricardi et les sénateurs sont aussi accusés d'avoir, de concert, couvert les extorsions du gouverneur qui réclamait 2 à 3 louis d'or de timbre par passeport et rendait les sentences du magistrat de santé dans sa propre maison. Hein, et son petit appartement privé à Chambéry, il rendait directement, c'est-à-dire il n'y avait même pas de magistrat de santé qui s'assemblait, hop, il signait au bas, le magistrat de santé c'est moi, et il envoyait le passeport. Le scandale est d'autant plus sensible que le Sénat de Savoie se sent très exposé à une suppression. Cette affaire aurait pu conduire à la suppression du Sénat de Savoie. Ça va se voir en Piémont à Casale en 1730. Et puis n'oublions pas que en 1724, ça fait 4 ans qu'on a supprimé la Chambre des comptes à Chambéry. Ça aurait pu être l'argument en or pour supprimer le Sénat de Savoie. Ça a presque failli marcher, hein. Ce Sénat, dit le procès, dont les personnes qui le composaient autrefois étaient si soigneuses à faire valoir les édits du souverain, ce même Sénat voit qu'un gouverneur brise impunément les édits du roi et il croupit dans un coupable silence. Le magistrat de santé est encore plus coupable puisqu'il a poussé sa témérité jusqu'à vouloir se rendre supérieur aux lois, c'est-à-dire à la décision du roi, et a pris la liberté de modérer à son gré les peines portées par les édits contre les contrevenants. Affaire si sensible que dans cette période de 1724, et vous allez voir ça a son importance, il y a une purge au sein de l'État. Le général des finances Ferrero d'Orméa, qui est le préféré du roi, tombe en disgrâce au profit de Jean-Louis Reberti, secrétaire aux affaires internes, et que tout le monde est un petit peu purgé, et l'affaire profite, hein, si vous voulez, à l'administration centrale. La délégation va juger l'avocat Audet, le comte de Sales, coupable de crimes contre l'État. Et les condamner à mort sur les réquisitions de l'intendant Lovert, peine qui sera commuée à la prison à vie pour le gouverneur de Salles, parce qu'il est vieux, 72 ans maintenant. Audet est exécuté en place publique. Donc on dresse le billot, place Salégé à Chambéry, et on lui tranche la tête. Quant à l'intendant général Ricardi, qui est quand même protégé par quelques puissants appuis à Turin, après un séjour dans les prisons de Chambéry et les prisons turinoises, il est étrangement blanchi. Il garde sa tête, son collier de chevalier de Saint-Maurice et de Lazare, mais sa carrière marque le pas. Alors lui, c'est trop drôle, hein, il est exilé comme préfet à la Brigue, dans la vallée de la Roya. Donc voilà, voilà, il a son château, et cette petite tour qui est à gauche, là-bas, hein, on lui donne ça. Hein. Une punition qui le rapproche toutefois de ses enfants à Nice. Il passera la fin de sa vie à se plaindre, pleurer, hein, toutes les lettres où il pleure à Turin pour se faire changer de poste, hein. Il dit qu'il meurt de faim, qu'il a servi l'État fidèlement. Il faut savoir qu'il est l'auteur du premier projet de cadastre, de péréquation en Savoie, qui n'a pas abouti. Il faudra attendre 1730. Il meurt dans l'indifférence générale à Nice en 1729, peu avant que son mentor, Ferrero d'Orméa, rentre en grâce à la cour du nouveau roi Charles-Emmanuel III. Dommage, il meurt trop tôt. Alors pour comprendre cette sentence, Il faut observer le contrôle social du duché. Il faut décomposer maintenant l'affaire en deux parties. Le travail du magistrat de santé pendant la peste de Provence, et puis le travail de l'intendant avec son système de corruption, pour comprendre ce qui se joue derrière tout ça. Alors, la nouvelle de la peste de Marseille, elle est connue en Savoie de l'intendant par des particuliers de Genève le 23 août 1720. Souvent, on a les informations par Genève, ça arrive de Genève à Chambéry par le courrier. On n'a pas les informations directes de France, mais les informations de Genève, ça va beaucoup plus vite par les marchands. Donc on apprend la peste à Chambéry le 23 août 1720, soit 2 mois après le début des contaminations à Marseille. L'intendant Ricardi seul, à ce moment-là, il n'y a plus de gouverneur, ça n'est pas encore entré en poste. Le premier président du Sénat, Gault, il vient de mourir de sa bonne vieillesse, informe le roi et il convoque immédiatement le magistrat de santé. Alors le magistrat de santé prend immédiatement des mesures de police et de salut public, mobilisation des dizaines dans les villes. Je vais fermer aussi ici. Voilà. Mobilisation des dizaines dans les villes. Alors, qu'est-ce qu'une dizaine ? Une dizaine, c'est un quartier, si vous voulez, un découpage administratif urbain, fermeture des portes des civils, comme à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, on a la lettre du magistrat de santé, l'intendant Salter de Samoin. Il y a le premier intendant de Saint-Jean-de-Maurienne, l'intendant Salter de Samoin, qui était nommé en 1717. Eh bien, l'intendant a l'ordre de fermer les portes, de demander aux bourgeois de garder les portes la nuit, de ne plus admettre les marchands, etc. Donc, surveillance des malades, état des médecins, on doit faire un état des médecins qu'on envoie à Chambéry, qui est le proto-médecin de Saint-Jean-de-Maurienne, etc. Donc, on a tous ces courriers qui permettent l'état du nombre de médecines, qui est l'apothicaire. Chaque ville, voilà. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces courriers. C'est l'ossature qu'on connaît déjà au XVIIe siècle. Les médecins, les barbiers, les proto-médecins, etc. Dont des études existent d'ailleurs sur le sujet. C'est quelque chose de tout à fait. J'ai rien repéré de suspect. Tout est en ordre dedans. L'ordre de fermer les frontières est obtenu du roi le 21 septembre 1720. Vous voyez quand même le décalage. La peste, c'est en mai. L'information qui arrive en Savoie, c'est en août. Et on ferme les frontières le 21 septembre 1720. Donc, on ferme la frontière entre la France et le duché de Savoie. Donc, il y a un cordon, c'est le Rhône, c'est le trait continu rouge. Et puis, il y a tout le massif de Chartreuse et de Belledonne qui va être gardé, je vais vous expliquer comment, où on envoie des troupes garder les passages avant qu'arrive la neige, puisqu'après la neige est jugée suffisante comme obstacle au passage. Le manifeste du magistrat interdit tout passage de la frontière entre la France et la Savoie. Alors on érige en septembre des guérites permanentes pour garder les ponts du Rhône. L'intendant de Maurienne, Salter, installe des garnisons sur les cols d'altitude avec les Belledonnes. Par exemple, l'archéologie montre au col des Montets. Alors on a les plans, on a la cassette, la guérite, le mur et tout ce qui va avec. Ouais, ça se retrouve un petit peu de partout. Alors ça se superpose à des murs plus anciens qui ont dû exister forcément, puisqu'on est sur la frontière. On parle du col de la Planiette dans les actes, etc., avec le Dauphiné, le Briançon. Il y a des postes qui sont mis en place, qui sont gardés à tour de rôle par les paysans. Les archives municipales du Châtel, il y a une garde à Champgallier, c'est un petit plateau pour surveiller les passages. Il y a une garde aussi des bourgeois de Saint-Jean-de-Maurienne, au Fort-Lamant, à Pont-à-Maffray, voilà, pour surveiller les passages, contrôler qu'il n'y ait pas de marchands, etc. Pour protéger le Piémont, on installe une deuxième barrière en interdisant totalement le col des Montets avec le Valais, donc c'est le losange rouge le plus gros que vous voyez ici. Le col du Petit Saint-Bernard, le deuxième losange rouge qui est dessous, barrière avec le Val d'Aoste. Et puis, on demande au comte de Viancin, qui est le gouverneur à Suse, de n'autoriser par le Mont-Cenis que l'entrée des marchandises du Piémont vers la Savoie et non l'inverse. C'est pour ça que j'ai mis le col du Mont-Cenis en vert. Il n'est pas totalement fermé. Il fonctionne comme une ventouse qui va que. Un clapet qui va que dans un sens. On a le droit de faire venir des marchandises du Piémont en Savoie, mais pas de Savoie vers le Piémont. D'accord ? Pareil pour la barrière de Genève. On s'aperçoit qu'à Genève, les Genevois manquent de blé, ils n'arrivent pas à manger. Donc on autorise de la Savoie à Genève le transit des blés et des marchandises, sachant que Genève a fermé sa frontière avec la France et donc que c'est étanche. Il y a une convention entre les autorités de Genève et le magistrat de santé savoyard pour autoriser le passage. Et surtout le passage du blé, entre le Piémont, le Mont-Cenis, la Savoie et Genève, mais pas dans l'autre sens. Donc il y a ce petit accord qui est donné. Les châtelains sont mis à contribution. Le châtelain de Bessan surveille, par exemple, de manière curieuse, deux Allemands qui passent en toute illégalité le col de l'Autaret et qui font de la montagne. Il le relate à son supérieur avant de se faire réprimander. Il dit, il faut les arrêter, ils n'ont pas le droit de passer, c'est étranger, ils pourraient avoir la peste, etc. Alors cette lettre, elle est curieuse, elle date de septembre 1721. Et moi, elle m'interroge beaucoup parce que, pour nous, l'alpinisme, c'est le 19e siècle. Mais peut-être que l'alpinisme, c'est d'abord une affaire de vantardise, c'est-à-dire de gens qui ont écrit, qui se sont vantés d'avoir fait des montagnes, et qu'au XVIIIe siècle, il y avait peut-être des gens qui faisaient déjà les montagnes avant tout le monde. Hein. Donc c'est assez intéressant, hein, ce courrier. Alors, il y a cet étonnement de dire, mais qu'est-ce que sont ces gens? C'est pas des maçons, c'est pas des contrebandiers, c'est pas... Ils vont faire une montagne, puis ils s'en vont. Alors ça étonne tellement, mais il met 15 jours, hein. Mais ça se trouve, il les avait chez lui, hein, je sais pas... il met 15 jours avant de dire à l'intendant général à Chambéry, ben voilà, j'ai vu des Allemands, ils ont passé la frontière, ils se sont passés de l'autre côté, enfin, et ils venaient faire de la montagne. Bon, voilà. Il y a des choses étranges comme ça. Alors la contravention au manifeste mérite la mort, celui qui ne respecte pas toutes ces lois mérite la mort. Elle doit être prononcée par le magistrat de santé, car, dit le manifeste, hein, il n'y a que des exemples qui puissent contenir les peuples et surtout les négociants dont l'avidité exige de grandes précautions. Alors, ce cordon de garde est assez efficace. On compte, le premier mois, entre septembre et octobre 1720, 484 arrestations, hein, qui sont recensées par le magistrat de santé. Surtout de paysans qui possèdent des terres de l'autre côté de la frontière. Alors, c'est pas trop des Moriennais qui passent en Dauphiné, il y a peu de cas, mais c'est surtout, vous voyez, dans la vallée du Gelon, ou du côté de Chapareillan. Chacun a une terre de l'autre côté, en fait, hein, du côté dauphinois ou de dauphinois. Voilà. Donc le magistrat est submergé de requêtes. Et comme il ne souhaite pas saigner la Savoie, parce que tous ces gens-là, il faudrait leur trancher la tête, on obtient du roi de commuer la mort d'abord en bannissement. Alors il y en a deux, trois qui partent aux galères. On n'a pas vraiment les noms, puis ça se trouve, il n'y a personne qui est parti. Puis, s'ils ont de quoi payer les amendes, alors ça c'est marrant, hein, c'est subtil, de les condamner à celles que vous croirez qu'ils peuvent payer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien, hein, qui n'ont pas de sous, qui sont lâchés en gros, hein, j'en déduis que c'est ça. Puis, si on attrape un gros poisson en négociant, on voit qu'il a une bourse un peu pesante, on dit, oh, ça sera 3 louis d'or, hein, c'est à peu près l'idée, hein, qui est là. Dont le produit doit servir à la diminution des frais de prison, parce qu'en fait, ça empoisonne les comptes, ce truc-là. On arrête tous ces gens-là, on les met en prison, mais il faut les nourrir. Il faut leur donner du pain, on ne peut pas les laisser crever en prison, hein, quand même. Et donc, comme ces gens-là, ben, ils sont rétifs à l'État, ils donnent souvent pas leur identité. Il faut les laisser crever, il faut leur donner à manger. On leur donne du mauvais pain, forcément, mais il faut le payer. Ce pain. Et donc c'est l'État qui paye. Et l'intendant, quand il voit les notes qui arrivent à Chambéry, là par exemple vous avez le château d'Arvillard, hein, c'était l'espèce de douane avec Alvar, hein, du côté du Dauphiné, hein, la chapelle du Bar, etc. Il dit mais les dépenses sont astronomiques, il faut arrêter tout ça. Donc on relâche les gens en masse comme ça. Alors c'est pourquoi, puisque ça marche pas, un nouveau manifeste, octobre 1720, prévoit un régime de passeport délivré sur la demande du Conseil de Santé. Le passeport est un document fiscal, il y a un timbre dessus, qui identifie et autorise sous quarantaine les objets et les hommes à transiter malgré l'interdit. Des marchands obtiennent le droit de passer la barrière de Genève, s'introduire en Savoie. Cela se fait en présence de membres du Conseil de Santé, par exemple le subdélégué du Chablais, Penet, avec des procédures d'aération des marchandises dont je vous ai parlé. On fait passer des espions, s'il y a des espions qui passent. Alors, je vois par exemple l'abbé Provana, c'est l'espion de la Savoie à Lyon. Il peut s'introduire en Savoie après une petite quarantaine. Hein, passe quelques jours à l'abbaye du Béton, dans le Val-Gelon, et il peut s'introduire. On apprend aussi que le comte de Sales, qui n'est pas encore gouverneur de Savoie, hein, 1720, il ne sera que gouverneur en 1721, obtient l'automne 1720 l'autorisation, par l'entremise d'un billet de contrôle, d'importer des ballots de coton de Beaucaire, donc le coton qui est certainement arrivé avec la peste, hein, pour les tisser assez en tarentaise et pour faire du drap. Vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui le drap de Bonneval, qui est plutôt fait avec de la laine, mais il y avait du coton qui remontait jusque là-haut. Alors, à ce sujet, l'intendant général recommande à son subdélégué à Moutier de tout faire enfermer à clé, parce qu'il a quand même peur, hein, que ça introduise la peste, d'agir en secret pour ne pas inquiéter les populations. Parce que si les populations de Tarentaise apprennent qu'il y a des balles de coton qui viennent de Provence, qui se baladent en Tarentaise, vous imaginez, hein. Relation intéressante qui montre que le comte de Sales a déjà diversifié ses revenus par des intérêts proto-industriels en Savoie. Hein, il faut savoir que le XVIIIe siècle, c'est le siècle où il y a un basculement dans l'aristocratie. C'est toujours la terre, le titre, le sang qui fait la noblesse. Mais de plus en plus, ces gens-là s'aperçoivent que les terres, ça ne rapporte rien, et que l'industrie, ça rapporte. Et on voit un petit peu comme ça des personnages qui commencent. Ah, ils ont des prête-noms, etc. Hein. Ils ont des hommes de paille qui travaillent pour eux. Parce que c'est sale hein, de s'abaisser à marchander pour un noble. Mais on s'aperçoit qu'ils commencent à s'intéresser aux affaires et à gagner beaucoup d'argent avec. Et le comte de Sales, vous voyez, il a ses intérêts là-dedans. Hein, ses intérêts. Et il y a les passe-rois, donc ils se mettent en place. Alors, le problème, c'est que la peste est persistante et que les plaintes arrivent jusqu'au roi. Turin décide de fermer les frontières définitivement à toutes les marchandises, donc ça c'est en 1721, c'est quelques mois après, et de nommer le comte de Sales gouverneur de Savoie pour sa connaissance du duché. Évidemment, à Turin, on ne sait pas que le comte de Sales, il fait du commerce. Hein. Vous imaginez bien. On ne sait pas. Mais on dit, bon, on va nommer le comte de Sales, c'est un homme à poigne, c'est un savoyard, il connaît le pays, lui, il va fermer la frontière, et ça ne va pas passer. Ainsi, l'interdiction totale du commerce avec la France arrive le 27 novembre 1721, donc une année après la peste de Marseille, et s'oppose aux intérêts de tous. Elle s'oppose à l'intérêt de l'intendant général. L'intendant général, il veut que le commerce se fasse, parce qu'il cherche à tout prix à solder l'impôt de l'année courante. Il n'y a pas assez d'argent qui rentre dans les caisses. Du petit monde élitaire chambérien et du comte de Sales, qui font leur commerce, leur petit bidouillage, et tous conviennent de faire quelques arrangements au mépris de la loi. Le roi a dit qu'on passait pas, mais on va passer quand même. Et on va lui mentir. Le marchand Quintereto, dans le procès, dira dans l'enquête qu'il a été introduit durant l'été 1722 par Penet, donc vous savez, le surveillant à la barrière de Genève, le douanier genevois, hein, il a été introduit chez le comte de Sales en présence de l'intendant général. Pour contourner l'interdit, on avait pris l'habitude de récupérer la marchandise à la barrière de Genève ou à Thonon et la saisir comme contrebande. Comme ça, on la faisait transporter aux frais de l'État, à Chambéry. C'est pratique, hein. Aux frais des gabelles, pour la vendre comme prise à Chambéry. C'était vendu comme prise, tout en délivrant un passeport illégal aux marchands. Puis, les ordres étaient effacés. Et tout cela, on a peu de traces. On n'a que le procès hein, qui témoigne de ça. Rapidement, ce système est devenu quasi illicite, connu du Sénat de Savoie et du magistrat. Il était même nécessaire. Imaginez, la garde du château de Chambéry, il faut du plomb. On le fait venir de France ou de Suisse. Ben, on était obligé de truander, de faire venir du plomb, sous prétexte que c'était de la contrebande, par Genève, pour armer les gardes du château de Chambéry, qui n'avaient pas de plomb. Hein. Donc, c'est vraiment le problème. Les marchands qui voulaient le passeport en faisaient requête à l'intendant général. Le comte de Sales ne le délivrait contre un droit de timbre de 2 ou 3 louis d'or, hein, je vous l'ai dit. Et avec malice, l'intendant menaçait de faire payer des amendes aux marchands. À un marchand qui s'appelait Mernier de Genève, il aurait dit, selon un témoignage, « Je te tire la couverture, si tu veux que je te la tire, je la tirerai. Hein » En gros, paye. C'est un peu l'idée. Ainsi, l'historien est partagé sur les mesures de contrôle social et leur efficacité très relative. Le procès fait mentir les archives institutionnelles. C'est ça qui est très intéressant, parce que les archives institutionnelles disent « Il n'y a pas de, y a rien, tout va bien, la frontière est bouclée. » Là, les archives institutionnelles nous mentent, et le procès nous le montre. Hein. Il n'y a pas de succès du contrôle de la peste. En fait, la frontière est totalement ouverte. Certes, des mesures sont plus ou moins efficaces, comme les procédures de désinfection, enfin on peut en douter, qui éloignent quand même les contacts entre marchandises et douaniers, la fameuse distanciation sociale hein, que vous connaissez tous. Mais dans le même temps, la frontière apparaît comme une passoire, comme si l'État central diffusait une image et que dans la réalité, tout le monde s'arrangeait pour faire autrement. Sans gendarmes, sans quadrillage territorial, qui n'apparaîtront qu'avec Napoléon ou la Troisième République, hein, vous imaginez, impossible qu'il en soit autrement, en fait, hein, si on veut bien. Alors, c'est que la nature du contrôle social de cette période, elle est donc tout autre. C'est pas un contrôle du citoyen ou du sujet, le citoyen n'existe pas encore. C'est autre chose. Le contrôle, c'est certainement un système de corruption. Alors, voyons ce qu'il en est. L'intendant général Ricardi est de la première génération d'intendants. Celles qui sont normalisées par les règlements de l'État, la naissance de l'État en Savoie, hein, si vous voulez, et qui inventent une autorité nouvelle face au Sénat, face à la Chambre des comptes. L'intendant profite au début de l'année d'un vide. Il n'y a pas de gouverneur et il n'y a pas de président du Sénat. Il en profite, il est tout seul. Hein. L'intendant, il est tenu à l'efficacité économique, la rentrée de l'impôt, ce qu'en Italie on appelle le buon maneggio. La tutelle qu'il exerce sur le magistrat de santé n'a que cette fonction en origine, voir s'il ne dépense pas trop. Il publie des mémoires sur les conséquences du contrôle social, exerce une expertise qui oriente l'ordre royal. Pour preuve, sa correspondance, c'est 354 lettres, montre qu'il se soucie autant de la santé publique que de la rentrée de l'argent. Un premier exemple. On doit publier un traité en Savoie qui s'appelle le Capucin Charitable, c'est joli, hein, sur la manière de lutter contre l'épidémie. Ça coûte 1000 livres, imprimerie Gorin à Chambéry. 1000 livres. C'est le salaire annuel d'un intendant, 1000 livres, à peu près. C'est exorbitant. Il dit que c'est une dépense inutile. Alors, lui, il le sait d'autant plus, parce que la frontière, c'est une passoire, il laisse passer des gens. Il dit, on va publier ça, mais il ne va pas dire à l'État, on ne publie pas parce qu'on laisse passer des gens. Il va trouver tout un tas d'arguments pour dire c'est trop cher, on dépense trop d'argent, etc. Il n'y a pas besoin de publier ce bouquin, hein, par exemple. Autre élément, il dit dans ses lettres, à Réberti, le ministre, que la peste et le contrôle des frontières sont en fait un bon coup pour l'économie. Pourquoi ? Elles orientent le commerce de la Savoie vers Genève. Les Français font plus de commerce avec Genève. C'est à nous de faire du commerce, nous, Savoyards, de faire du commerce avec Genève. Comme Genève a fermé ses portes avec la France, on va pouvoir faire des sous avec Genève, leur vendre du blé et boucler le paiement de la taille. Comme ça, la peau va en fait rentrer. Il n'y a pas une année où on arrive à obtenir les objectifs fiscaux en Savoie. Chaque année, on demande trop d'argent et il y a toujours des reliquats. Il y a toujours des communautés qui n'arrivent jamais à payer jusqu'au bout. Donc, pour lui, c'est un bon coup. Hein, c'est écrit ici. Ce sera un bon coup pour le pays. Hein, il le dit clairement à l'intérieur de ses... Donc voilà, il y a autant... vous voyez, là, c'est le fameux traité, ce traité de police. Il ne sera jamais publié. Hein, parce que, il juge, un, que c'est inutile, ça coûte trop d'argent pour l'État. Il s'inquiète aussi des tailles qu'il ne rentre plus sur des terres détenues par des étrangers en Savoie, ou encore sur le coût des mesures de santé. Hein. C'est bien l'intendant qui envoie la barrière de Genève, M. Penet, sous-délégué du Chablais, dont le beau-frère Ribollet, c'est aussi le commis des Gabelles et le témoin de mariage de l'intendant en Savoie, donc c'est tous des réseaux, vous voyez, pour surveiller la contrebande. Ni l'un ni l'autre n'ont de patente, ce sont des clients de l'intendant. Tout ce petit monde, c'est des gens, c'est des clients, en fait. Dans les correspondances, ceux qui sont italiens, ils s'adressent à l'intendant sous le vocable padrone, hein, patron. Aussi l'autorité légale rejoint l'autorité locale, vous voyez ainsi. Ricardi, en agissant de la sorte, favorise les malversations du gouverneur, ok, mais il s'assure aussi une carrière. L'impôt rentre, donc il est bien vu à Turin. Hein. Rien n'oblige aussi les commis des Gabelles à sortir de leur mission, sinon un intéressement de l'intendant. Il doit y avoir de l'argent derrière tout ça. Et ça, alors, j'ai pas la preuve pour 1720, mais sur plein d'autres intendants du 18e siècle, j'ai les états, vous savez, l'inventaire après décès de son bureau. Et là, on trouve les petits paquets de pièces avec les noms à qui c'est destiné, avec le type de pièces, des pistoles d'or, de la monnaie de billon, bronze. Voilà. Parce qu'en fait, il y a tout un réseau de gens derrière hein, qui sont des petites mains, mais qui ne sont pas officielles. Il n'y a pas de fonctionnaires au XVIIIe siècle. Hein. Il faut bien trouver des relais. C'est ces gens-là. Grâce à ce réseau, l'intendant vise l'efficacité fiscale, un poste prestigieux. Probablement, lui, il visait l'intendant général de Nice, le sommet de la carrière. Autre raison, les Gabelles ne rentrent plus. On tire en effet trop peu de sel, en 1721-1720, des salines royales de Moutier et d'Arbonne. Les salines d'Arbonne fonctionnent encore, en parenthèse, en 1721, il faut le savoir. Et la seule solution était d'en tirer à partir de la vente des sels de Péquet en France. Hein, on faisait venir du sel, par bateau, de l'eau du Rhône, etc. On ajoutera encore que l'intendance avait besoin d'argent frais. C'est cet argent qui finance l'efficacité du contrôle par les commis. Si on veut que tout le petit monde de l'intendant, pour surveiller la construction d'un pont, etc., soit aux ordres du personnage, il faut de la corruption, il faut de l'argent. Je ne dis pas que la corruption, c'est mauvais. Hein. C'est un système de gouvernement au XVIIIe siècle. Il faut maintenir ce système. Et donc, il faut faire rentrer l'argent dans le territoire. Et donc, il faut qu'il y ait du commerce. Si on ne fait pas rentrer l'argent dans le territoire, il n'y a plus de source d'argent, y compris pour l'intendant, il n'y a plus rien en caisse. Et il ne peut plus payer son réseau, il ne peut plus rien contrôler du tout. Pour vous donner une image de l'époque, l'intendant gouverne officiellement, les fonctionnaires, hein, entre guillemets, avec 4 personnes. Il y a 4 personnes dans son bureau. Il a un vice-intendant, un secrétaire général, un secrétaire et un pédon, c'est-à-dire un piéton qui envoie les courriers. Ça, c'est ceux qui ont des patentes officielles et un salaire. Et après, derrière, autour de lui, il y a 80 à 100, 120 personnes parfois, qu'on appelle les volontaires, les clients en fait. Hein. Et c'est tous des gens qui sont derrière de l'intendant, hein, si vous voulez, et qui veulent de l'argent, quoi, hein, et qui vont lui rendre des services contre monnaie sonnante et trébuchante. Hein. Tu fais quelque chose, je te donne de l'argent en secret. Et tout ça, c'est ignoré de Turin. Hein. C'est quelque chose qui, sur lequel on ferme les yeux. Ainsi, c'est non sans intérêt pour le conseil du roi que tout cela est maintenu. Toutes ces raisons poussent l'intendant général à cautionner un système, le système des passeports du comte de Sade, dans lesquels il avait forcément des intérêts. Alors, un petit épilogue maintenant sur cette affaire, que vous avez peut-être un peu mieux compris. C'est une affaire qui finalement est exploitée à des fins politiques, cette affaire. Parce que quand elle éclate, on est en 1724, on est donc 2 ans après la fin officielle de la peste, 1 année après la fin des mesures de contrôle sanitaire en Savoie. Il n'y avait pas de raison que cette affaire éclate comme ça. La conduite de l'intendant Ricardi et du comte du Sal devait peut-être être connue dès le printemps 1723 et ne posait aucun souci à cette date. Ce qui est étrange, le roi a même tendance à louer l'efficacité de son commissaire puisqu'on lui accorde une pension. On a donné de l'argent à l'intendant Ricardi parce qu'il avait bien géré la peste. L'identité du membre du conseil de santé qui a envoyé les billets frauduleux à Turin n'est pas connue, mais il s'agit sûrement d'un sénateur dont les membres sont irrités par les nouvelles fonctions de l'intendance, souvent complétées par des délégations ou des commissions par billets royaux. Ce qu'il faut imaginer, c'est que dans la période 1720-1724, l'intendant, il a piqué presque un tiers des pouvoirs du Sénat, dans cette période-là, cette période de crise. Le tabellion, le contrôle des monnaies, la garde et la surveillance des frontières, l'établissement des traités internationaux, qui était normalement la prérogative du Sénat de Savoie. Tout ça est en train de ficher le camp et passe dans les mains de l'intendant. Comme si en 1724, il y en avait un qui avait trouvé le bon moment pour exiter l'intendant Ricardi, le vilain intendant qui avait volé tous les pouvoirs du Sénat. Hein. Donc, il y a quelque chose autour de ça. Et c'est concomitant avec le fait qu'on change de clientèle à la tête de l'État. Hein, je vous ai dit, le préféré Orméa s'en va, et c'est le clan des Réberti qui arrive et qui se met en place. La prosopographie des intendants montre d'ailleurs que les généraux des finances, Palma, Orméa, avaient des logiques clientélaires. Vous voyez, par exemple, sous Orméa, ça c'est toutes les provinces, et le nombre d'intendants que chaque province donne. On voit que presque tous les intendants de la période Vincenzo Ferrero d'Orméa, c'est des intendants qui viennent du sud du Piémont, qui viennent de la ville, en plus, d'Orméa, qui est Mondovi, comme par hasard. C'est ses copains hein, qui nomment en poste, hein, évidemment. Et ça doit gêner le nouveau ministre Réberti, parce qu'il a en face de lui que les créatures de son ennemi. Donc il va falloir les purger, mais il faut trouver de bons arguments pour les purger. Et on fait éclater des procès. Allez, on va sortir un truc, on va sortir une affaire sordide, et boum, ça tombe au bon moment pour virer le personnage qu'on n'a pas envie de voir. Donc, c'est donc non sans intérêt que le scandale éclate. Les créatures du ministre Orméa sont purgées, le Sénat de Savoie, lui, il est accusé de complicité, il est menacé d'annihilation, hein, c'est-à-dire de suppression, il doit se ranger sous l'autorité du roi, abandonner toutes les procédures pour récupérer les prérogatives qu'on lui appliquait, hein, le contrôle des frontières, le contrôle des monnaies, etc., ce qui profite au roi Victor Amédée II. Ainsi, l'autorité aussi de l'intendance de l'État central en sort renforcée. De fait, le contrôle des frontières, la santé publique sont transférés aux intendants. Un nouvel intendant, Lovert, proche du ministre Réberti, arrive en Savoie avec une autorité confortée, chargée de lutter contre les abus, hein, ce personnage. Le cercle est bouclé, hein, vous avez compris. La crise sanitaire a profité au pouvoir central et l'autonomie locale en est réduite. L'autonomie locale présentée par le Sénat de Savoie qui était place Saint-Léger, l'église qui a disparu sur la photo, vous voyez ici. Alors, en conclusion, le procès criminel des malversations du comte de Sal, qui dénonce les manquements de l'intendant Ricardi et du magistrat durant la période de peste, permet d'appréhender, la réalité des politiques de contrôle social de l'État, j'ai bien dit de l'État, dans le duché de Savoie, mesures nouvelles qui sont mises en œuvre par le canal d'une nouvelle institution qu'est l'intendance, qui se généralise au XVIIIe siècle. Le procès montre bien qu'il y a une ébauche de contrôle social autour de l'idée de protection des populations, mais qui est encore une protection économique et fiscale, mais que cette protection n'est qu'un trompe-l'œil. Souvent, l'efficacité qui est donnée dans les actes administratifs, les sources administratives, n'est qu'un trompe-l'œil, et le procès le montre bien. Alors ça montre aussi la possibilité d'organiser ce contrôle. Hein, dans le premier mois en 1720, il était possible de fermer totalement les frontières. Mais ce contrôle n'est pas souhaitable. Fermer les frontières, c'est une bêtise hein, pour l'économie de la Savoie. Pour des raisons économiques, d'insuffisance monétaire, le contrôle se révèle impossible. Il est désastreux pour une économie qui est très dépendante des échanges frontaliers. Il est très désastreux aussi pour une proto-administration qui dépend largement des recettes et de la circulation de l'argent. Tu arrêtes de faire circuler l'argent entre Genève, la France et la Savoie, tu asphyxies le pouvoir central. C'est un peu le problème. L'impératif économique, la carrière personnelle, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des affaires personnes là-dedans, le renforcement du contrôle de l'État pousse l'intendant à s'investir dans la manière traditionnelle de gérer le territoire du duché. Non pas verticalement, avec des ordres pour contraindre les gens et mettre un gendarme derrière chaque personne, mais horizontalement, par des réseaux, par la corruption, au détriment des ordres verticaux de l'État. Comme si on avait dans l'esprit qu'on pouvait contrôler les populations, mais qu'on n'avait pas encore mis les moyens pour le faire. Il manque les gendarmeries, en fait. Hein. C'est ça qui manque. Hein. Ça, les Ricardi vont faire l'amère expérience, eux, du changement politique. Et on peut se servir de ces affaires pour se retourner contre leur carrière. Et ils en font la meilleure expérience. Quant à l'État, la gestion sanitaire est l'occasion pour lui d'accélérer son emprise sur le milieu nobiliaire local et sur les réseaux élitaires. Le grand gagnant de l'affaire, à qui profite le crime, c'est lui, c'est Victor Amédée II de Savoie. Purge, procès, éviction, menace de suppression, réduction des autonomies locales participent au jeu du renforcement du centralisme d'État dans une monarchie administrative en devenir qui est un modèle de modernité et qui, à bien des égards, servira aussi de modèle à la Révolution française. Alors c'est vrai que peut-être Dieu, on ne sait pas, ou les mesures de quarantaine extérieures à la Savoie, c'est peut-être les mesures du Conseil de Régence dans le Vaucluse, ont probablement sauvé le duché de Savoie de la catastrophe sanitaire, mais pas... les intendants de Savoie et la marche de l'État. Et en tout cas, ça n'a pas sauvé la Savoie de la marche inéluctable de la croissance et du contrôle de l'État sur les populations. Je vous remercie. S'il n'y avait que lui, il y en a des dizaines qui ont été purgés de cette manière-là. C'est-à-dire, ils ont laissé faire pendant des années. On a un autre donc, qui s'appelle Matone de Bénevel, et qui avait pris l'habitude de racheter les... Enfin, c'était au moment du rachat des droits féodaux en Savoie, donc vers 1770. Et il avait pris l'habitude de s'arranger avec les vendeurs des droits féodaux, les gens qui vendaient les droits féodaux, et de dire à ses vendeurs « Mettez un prix excessif, et moi je m'arrange pour le faire baisser dans la séance solennelle, ça se passait dans le salon du Grand Évêché à Saint-Jean-de-Maurienne. » Et donc il leur disait « Non, c'est trop cher, baissez le prix, c'est pas 10 000, mais 2 000. » Et il se faisait remettre 2 ou 3 000 en épingle, c'est-à-dire en enveloppe. Et avec ça, il achetait des mines. Alors il a acheté les mines des Sarrasins, des carrières de marbre dans la Haute-Maurienne, etc. Alors c'était très bien connu de Turin, jusqu'au jour où on a changé de droit en 1773. Et là, on s'est servi de ça pour le purger. On lui a dit, t'es corrompu, t'es mauvais, etc. Alors qu'il est resté presque 10 ans à la tête de l'intendance, et il faisait sa petite magouille comme ça, tout le monde le savait, et on l'a purgé quand ça a changé de clientèle. Donc lui, on l'a envoyé à Bielle, l'intendance crottée du Piémont, voilà, pour le punir. On l'a sauvé, voilà.
François, il servait de fusible comme certains ministres de ces derniers
temps. Et ben c'est exactement ça. C'est exactement. Et très difficile de faire carrière en étant intendant, parce qu'il y a toujours un moment où on finit brisé par ce genre de choses.
Ce genre de comme d'être conseiller d'un ministre ou d'un président. Faites ça, je n'écris rien.
Voilà. Sur les fusibles.
Ça se passe mal. Ben...
Voilà, ils sont évincés.
Mais au début du confinement, on a fermé les frontières,
oui.
Aux voitures, mais tous les camions passaient.
Ah, ça passait.
Les transports ont passé. L'économie n'a pas été arrêtée.
L'économie n'a pas été... Il y a beaucoup d'analogies entre ce qui s'est passé dans cette période-là.
Il n'y avait pas de rats dans les camions.
Quoique. Là, je dis bien, la seule... c'est Dieu ou les mesures du Conseil de Régence en France qui ont dû sauver la Savoie de la peste. Ah, c'est un système de gouvernement.
En France, Louis XIV, il a laissé son intendant qui est couché à exil. Il a fini sa vie là-bas. Celui qui avait le château de... Comment il s'appelle à l'époque? Il y avait un château.
Ah, Fouché. Fouché. Oui, mais bien sûr, hein, c'est un système. La question est de savoir qui est à la tête du réseau. Quand celui qui est à la tête du réseau devient plus puissant que le roi, ça pose problème. Et là, il est purgé, c'est un peu le. Après, c'est difficilement quantifiable, hein, c'est.
C'est partout.
C'est partout, voilà. Il faut voir la corruption comme un système de gouvernement de l'époque. Un système pratique. Sans fonctionnaire, c'est la seule manière d'avoir une centralité, si vous voulez, de se faire obéir de manière centrale. Une sorte de presque de mafia, en fait. Hein.
Ce ne sont pas les fonctionnaires, surtout ceux de l'Europe centrale, qui ont inventé la corruption. Elle est bien entière.
Ah non, 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 c'est. Ça a toujours été.
Moi, j'ai deux questions. Alors, la première, je pense que je connais la réponse, mais j'ai envie de la poser. Est-ce qu'il y a eu des intendantes?
Ah non. Il y a les femmes de l'intendant qui tiennent salon à Chambéry, mais elles n'ont pas de pouvoir particulier.
Voilà. Puis la deuxième, c'est l'affiche que vous nous avez proposée. On voit donc un médecin qui... Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
Ça, c'est vraiment...
Cet accoutrement.
Ça, c'est la caricature, en fait, de la... Comment dire, des gravures qui ont été faites à la suite de la peste de Provence. Donc il y a des ouvrages sur la peste de Provence qui sont parus en 1722, 1723, qui ont expliqué ce qui s'est passé. Parce que je ne suis pas allé dans les détails sur la peste de Provence, mais il faut savoir que Monseigneur Belzunce, qui était l'évêque de Marseille, quand la peste a repris en 1622, il est allé convoquer les échevins et il a fait « Maintenant, on arrête de jouer, on va faire un vœu. » Le vœu des échevins de Marseille. Et le vœu de se tenir un peu à carreau, en quelque sorte, hein, pour tout le monde, discipliner un peu tout le monde, et de prier la Vierge, et en action de grâce, si elle nous sauve de la peste, on lui construira des églises, etc., on lui fera des processions. Donc il y a le vœu des échevins de Marseille qui est fait, et ça s'arrête. Et derrière tout ça, il y a une littérature religieuse qui s'est mise en place, et qui dit, c'est pas les mesures, c'est pas les médecins, c'est pas ces accoutrements ridicules, parce que vous voyez, c'est des caricatures, en fait, hein, qui sont publiées. C'est pas les médecins qui ont arrêté la peste, c'est Dieu. C'est Monseigneur Belzunce, hein, qui a, avec le vœu, hein, qui ont arrêté la peste. Donc, ça, c'est l'accoutrement typique des médecins de l'époque, hein, c'est le tablier de cuir, qui n'est pas forcément, dit-on, sans intérêt vis-à-vis de la peste, qu'elle est transmise par la puce s'introduit difficilement, peut-être, dans le tablier en cuir, hein, ou le port du masque, mais tous les onguents, tous les encens qui sont utilisés n'ont aucune efficacité. Les procédures d'aération qui sont faites sur les marchandises n'ont aucune efficacité, à part peut-être faire mourir les puces au soleil si elles sont exposées une demi-journée, enfin j'en sais rien, hein, mais il n'y a pas de... On n'imagine pas d'où ça vient. Hein. On croit encore au XVIIIe siècle que le mal est contenu dans des miasmes, des odeurs, on ne sait pas que c'est la puce que porte le rat, que c'est un type de puce parmi d'autres, parce qu'il y en a plusieurs sur le rat, hein, qui est porteur du bacille.
Mais est-ce qu'on demandait aux personnes de se masquer ou de s'habiller autrement ?
Alors, les gens restaient chez eux, enfin, il y a des mesures de ne sortaient plus. Un, parce qu'il y a la peur de mourir, hein, qui est très forte, hein. Non pas qu'on obligeait les gens à rester chez eux forcément, mais les gens ne sortaient pas, ils avaient surveillé les fontaines, ils avaient peur des contaminations, etc. Ce sont souvent les médecins qui se promenaient comme ça, ou parfois quelques prêtres, ouais, qui avaient cet accoutrement.
Alors, c'est pas Saint-Roch qui a arrêté la peste?
Ah, oh, c'est Saint-Roch, oui. Chez nous, Saint-Roch, pour la Savoie. C'est Saint-Roch, en priant bien Saint-Roch, ça a dû marcher.
On ne disait pas qu'ils mettaient des herbes dans leur...
Oui, des herbes, des parfums, Donc après, il y a toute une littérature là-dessus, sur laquelle on peut effectivement faire des études, mais voilà, c'est pas la mesure... La mesure la plus importante qui protégeait, c'est vraiment le port du masque. Oui. Le fait d'être masqué, que la puce ne s'introduise pas dans les vêtements, je pense que ça... Oui.
Est-ce que des chercheurs ont pu déterminer ce qui a arrêté la peste?
À Marseille?
Entre
de Provence? Alors, probablement au printemps 1720, c'est les conditions météorologiques qui ont arrêté, et les mesures sanitaires du Conseil d'urgence, c'est-à-dire qu'il a quand même envoyé presque 5 régiments de dragons fermer les frontières du Vaucluse pour contenir le mal. Et puis l'arrêt de tout, il y a dû avoir un arrêt du commerce assez important dans cette période. Mais probablement aussi, il y a une... en fait, on est très mal renseigné, sauf quand la peste arrive dans une ville, généralement, on la voit de deux manières. Les sources s'arrêtent. Il y a un vide. Souvent, dans les actes municipaux, vous voyez, il y a un scribe qui écrivait, il meurt, il y a un blanc. Et puis, il y a un nouveau type d'écriture qui apparaît, et c'est 8 mois après, vous voyez, il y a un vide de 8 mois. Donc, on est très mal renseigné. Mais on sait qu'encore en 1723, même officiellement la peste étant arrêtée à Marseille, en 1723, il y a des foyers à Valence, il y a des foyers à Nice, il y a des foyers, il y a des vides. On ne sait pas. Donc probablement aussi la météo de 1722 a dû arrêter, comme le Covid pourrait s'arrêter comme ça. Souvent, je pense que c'est la nature qui a arrêté la chose. Ouais.
Si les gens restent rentrés chez eux, ils se nourrissaient comment ?
Difficile à dire comment. Hein. Ils devaient quand même aller au jardin. Alors ça pose problème dans les villes, mais ouais, ceux qui étaient dans les campagnes. Dans les villes, ça a dû aussi peut-être accélérer la mortalité avec la sous-nutrition, hein, c'est possible. Le fait de moins s'alimenter. Je donne juste un cas pour Genève, par exemple. Il fallait continuer à alimenter Genève, donc on a autorisé les passages entre la Savoie et Genève de blé. Ce qui d'ailleurs pose problème à l'État de Savoie, puisque les Savoyards vendent leur blé à Genève, mais comme on ne peut pas l'excédent de blé le faire revenir de Genève vers la Savoie, c'est tout Genève qui garde le blé, et comme il y a trop de blé pour la demande à Genève, on le vend à prix quasiment perdu une fois qu'il a passé la frontière. Donc c'est un vrai désastre économique, ce système. Mais comme c'est autorisé, l'intendant ne peut rien faire parce que c'est l'ordre du roi. Donc oui, forcément, ça continue à circuler de la nourriture dans les villes, hein, par obligatoirement, oui.
Y a-t-il un isolement des malades ?
Alors oui. Oui. Il y a, alors pas en Savoie, parce que la peste n'est pas arrivée en Savoie, mais à Marseille, des quartiers entiers. Hein. Alors vous avez ce quartier en particulier, qui s'appelle la Tourette, dont on a fait tableau, hein, après le passage épidémique, si j'arrive à le projeter, voilà. Quel endroit où on va faire la réclusion des malades et la quarantaine. Alors ils sont hébergés dans un certain nombre de dépôts de marchands, hein, parce que vous avez c'est des palais marchands, hein, avec des endroits pour mettre les marchandises, le long des quais, hein, et puis l'église qui est juste derrière, qui est Saint-Victor, qui sert de mouroir, en fait, hein, et où n'interviennent que quelques médecins et quelques prêtres. Donc il y a bien des lieux de quarantaine qui sont donnés dans le Vaucluse, à Avignon, il y a des quarantaines, oui.
Et que fait-on des morts ?
Alors, ben, c'est justement le grand scandale de Marseille, hein, puisque il y a personne qui est allé les chercher. Il y a eu des compositions d'un pas mal de cadavres dans les premiers mois, donc il a fallu trouver des équipes de. Alors heureusement, on avait des esclaves tout désignés, hein, sur les chiourmes, c'est-à-dire les condamnés aux galères à Marseille, hein, qui ont eu la sale besogne d'aller enterrer les cadavres putréfiés et de mourir avec, contaminés, hein, généralement. Donc, des cimetières ont été, il y a plein de fosses qui ont été creusées et nettoyées à la chaux. On jetait de la chaux déjà à l'époque, hein, sur ces malheureux. À la peine, là ça a été.
Et donc, pour résumer, les correspondances qu'il y a entre cette épidémie et celle d'aujourd'hui, on arriverait à les établir un peu, si on arriverait à faire un point qui nous dise on a avancé ou on a reculé.
Ben, moi je trouve qu'on est à peu près au même point. Hein. Si on regarde point par point, des conseils de santé qui ressemblent à des conseils de défense sanitaire, des mesures répressives mais que tout le monde peut contourner, une nécessité économique qui passe au-dessus de l'intérêt de fermer les frontières, le besoin dans des économies qui sont déjà très connectées, hein, de continuer à faire des échanges pour le bien des villes, des populations, de l'administration, de l'État, etc. Au final, si l'épidémie n'est pas plus catastrophique que ça, c'est parce qu'il y a une force immanente qu'il a peut-être bien voulu, c'est tout. Mais tout le reste, c'est du foin, c'est du vent. Hein. Les archives administratives se vendent de choses que la réalité dément catégoriquement.
Quant aux bénéfices, ouais, de cette affaire, en direction du pouvoir d'État, j'ai l'impression que de nos jours, le système n'est pas le même, car ce n'est pas un gouvernement qui profite de la situation, c'est l'ensemble. Ça se passe à l'échelon quasiment mondial. Ça veut dire que ce n'est pas tel gouvernement qui profite de ça. Ça veut dire qu'il y a, comme dans l'air, l'idée de profiter de cette affaire pour que certains prennent du pouvoir.
Il est dans l'air. Il ne nous a pas échappé qu'il est dans l'air du temps, que les États, enfin l'État en tant qu'institution se renforce aujourd'hui. On a eu un moment de décentralisation dans notre pays, et puis on a un retour du centralisme qui a fait forcément. Ah oui, mais en France, mais dans tout le monde en a profité, y compris les États autoritaires comme la Chine, par exemple, pour accroître le contrôle de leur population. Donc, à qui profite le crime ? Généralement à l'État, oui. C'est ça.
Autrefois, l'État, c'était le roi, c'est moi.
Voilà, c'est cette période-là où l'État devient le roi. Voilà. Avant, ça ne l'était pas. Au XVIIe siècle, l'État n'est pas le roi, en Savoie. C'est encore l'autorité. Il faut. C'est quelque chose d'assez complexe à imaginer, mais l'autorité n'est pas le pouvoir. Le roi a le pouvoir au XVIIe siècle, mais il n'a pas l'autorité en Savoie. Il émet les lois, mais l'autorité passe par le Sénat de Savoie. C'est les notables qui se font obéir en Savoie. C'est pas le roi, c'est les notables qui mettent en place les lois, etc. Alors le roi tape du poing sur la table, limoge, envoie en prison les têtes s'il a envie, mais il est obligé de passer par le canal de l'aristocrate local. Au XVIIIe siècle, tout change, ce rapport horizontal devient vertical, avec un discours, c'est le discours du bien public. L'État assure votre sécurité, c'est pour ça d'ailleurs que vous devez payer l'impôt à l'État sans passer par des intermédiaires, et l'État c'est le roi, l'autorité c'est le roi, c'est plus l'intermédiaire. L'intermédiaire on le laisse de côté. Et pourquoi on le laisse de côté ? Parce qu'il coûte de l'argent l'intermédiaire, il coûte trop cher. Donc, exit l'intermédiaire, c'est un abus, et maintenant on obéit à l'agent du prince qui est l'intendant, le préfet, si vous voulez. Mais bon, pour en arriver là, c'est long, ça se fait pas en un jour, ça se fait en un siècle. Et même le préfet napoléonien n'a pas encore l'intégrale autorité sur le département du Mont-Blanc au moment de la Révolution française. Pour vous donner une idée, c'est toujours le problème, c'est que notre conception de l'histoire malheureuse, elle est déformée par la Troisième République et l'école. On apprend à l'école, et moi-même, il m'en coûte de dire ça, j'apprends à mes élèves que la Révolution française a inventé l'État, et tatati, et tatata. Non, c'est pas la Révolution française qui a inventé l'État. La Troisième République, avec ses casernes de gendarmes partout, dans tout le territoire français, elle a inventé l'État. Oui. Parce qu'il y a un gendarme derrière chaque Français, presque, sous la Troisième République. Il y a un gendarme derrière chaque Français. L'État, tout le monde se fait. Enfin, l'État, tout le monde obéit à l'État, l'autorité de l'État est partout. Même dans le plus petit village du Vaucluse ou des Pyrénées, il y a l'État, quoi. Donc, voilà, c'est une vision un peu biaisée des choses. Donc, l'invention de l'État, c'est 17, 18, 19e, voire début du 20e siècle. Il faut le voir comme ça. Et on n'a pas fini. L'État nous contrôle. À moins que le citoyen décide de s'affranchir du contrôle de l'État, mais ça, c'est...
De nos jours, il y a aussi un autre problème, c'est celui des autorités législatives, qui perdent du terrain par rapport à l'autorité.
Renforcement de l'État central, de l'autorité de l'État, des préfets. C'est un jeu infini.
L'autorité de l'État a commencé avec le cadastre.
Oui, en Savoie, avec le cadastre à péréquation. Alors, encore que le cadastre est un document menteur, il faut le savoir, sur chaque parcelle, il y a autre chose généralement que ce qui est écrit dessus. Oui, il y a un contrôle qui se fait. Sébastien Savoie pourrait en parler plus amplement que moi, puisqu'il a produit une thèse sur le sujet, mais la finalité, en fait, de la péréquation n'était pas tant de mettre un nom sur chaque parcelle, mais de quadriller ce qu'on appelle les espaces communaux et d'aliéner ces espaces communaux, de forcer en fait les communautés au cours du 18e siècle à vendre ces espaces communautaires en parcelles pour accroître l'impôt. Parce que il existe des cadastres avant 1730. C'est moins joli, mais pas dessiné, hein. Chaque parcelle a déjà un propriétaire. On sait ce que chaque propriétaire... par exemple, dans la communauté du Châtel, il y a un cadastre en 1563, hein, par exemple. On sait déjà ce que chaque propriétaire possède, à peu près. Mais par contre, ce que l'État ne sait pas, c'est ce que la communauté possède en collectif et comment transformer ce collectif en parcelles qui seront plus tard soumises à l'impôt. Et le but du cadastre, en fait, c'est d'accroître l'impôt comme ça. Hein. C'est de dire, il y a des communaux... Vous n'arrivez pas à payer vos impôts, ben vous n'avez qu'à vendre vos communaux. Alors, ça fait de l'argent à la communauté, et en plus de ça, ça permet à des particuliers de payer plus d'impôts à l'État. C'est tout bénef, la péréquation. Hein. C'est ça le véritable but du cadastre. Parce qu'en réalité, sous le cadastre, il était fait en 1730, puis après, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a des livres qu'on appelle, vous savez, les tabelles, là, hein, qui permettent de savoir ce qu'il y a dessus. Mais dans la même parcelle qui est dite en emblavure, par exemple en blé, il y a de la vigne, il y a des arbres fruitiers, il y a tout. Donc c'est un document qui voilà. Le cadastre napoléonien, lui, par contre, il devient précis. Ça sera différent. Voilà. C'est une autre manière de voir les choses, mais c'est un siècle plus tard. Donc vous voyez, il y a tout un chantier en fait sur l'autorité de l'État à avoir, qui est à faire. Hein. Et donc moi, je travaille modestement sur les intendants, hein, mon collègue Sébastien Savoie sur le cadastre, et il y a une thèse à faire, s'il y en a un parmi vous qui a envie de se lancer là-dedans, sur le Sénat de Savoie, elle n'est pas faite. Donc il faut travailler.
C'est gros, celle-ci.
Ben voilà.
Il faut le dimanche.
Oui, c'est à peu près ça. C'est la question. Mais tout est à décomposer.
C'est quelqu'un qui étudie le cadastre sable de fond couvert de M. Masneau. Il a encore trop de travail dessus. Lui, il a photographié l'ensemble des parcelles et il a un logiciel qui nous permet de comparer les parcelles de l'époque avec celles d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il pourra, comme il est en plus il est statisticien, il arrivera peut-être à nous donner des renseignements sur l'évolution du cadastre.
Ah oui, ça c'est très intéressant pour savoir comment s'est morcelée la propriété. Daniel Desquier l'avait fait déjà un petit peu dans son livre sur le cadastre en Maurienne. Il y avait déjà des comparaisons chiffrées en petit pourcentage. Donc
là, ça sera très visible. On verra dans les où ça se trouve.
Dans certains quartiers, on retrouve exactement... les maisons où elles étaient, alors 1730 ça,
c'est,
et maintenant.
C'est très intéressant pour savoir sa propre maison, ouais, quand est-ce qu'elle est apparue, si elle existait ou pas. Savoir ce qu'il y avait à l'emplacement de sa propriété, c'est toujours intéressant.
On pourrait
laisser les chaises. Est-ce qu'avant de se quitter, on n'évoquerait pas le voyage en direction de l'Italie ?
Absolument. Et ben, y a plusieurs solutions. Moi, j'avais proposé d'aller visiter les rizières à Vercelli. Ouais. C'est une soixantaine de kilomètres de Turin, à l'ouest. C'est le pays du riz. Donc,
il existait déjà à l'époque dont on vient de parler. C'est pas de. C'est
alors,
pas récent, hein.
Le problème de l'époque, c'est que les intendants, enfin, c'est pas les intendants, c'est des aristocrates en quête de profit ont introduit le riz à la place du blé dans ces régions-là. Pour le vendre, et il y a des gens qui crevaient de faim. Donc les intendants ont été obligés, dans la province de Vercelli, que j'ai étudié aussi, puisque j'ai pas mal fréquenté le dépôt d'archives de cette ville, les intendants là-bas interdisaient l'extension du riz au détriment du blé, parce qu'ils avaient peur que les gens crèvent de faim, en fait. Hein. Mais il y avait déjà énormément de riz au XVIIIe siècle, oui, au XVIIe, au XVIIIe.
Et donc on voit des choses... Concrètement, actuellement, sur l'évolution, ce qui est intéressant, c'est
alors,
la maison des propriétaires.
Trois choses sont intéressantes pour l'étude du riz. Un, le développement du riz, donc de ces aristocrates, souvent religieux d'ailleurs, parce que Vercelli, c'est une ville religieuse. Hein, 80% des aristocrates sont des religieux à Vercelli. C'est une ville qui est ceinturée d'églises, une cathédrale gigantesque, etc. La deuxième, c'est la concentration de la propriété au XIXe siècle et ce qu'on appelle les tenuta, donc c'est-à-dire qu'on est arrivé à un système quasiment esclavagiste à la fin du XIXe siècle, où on faisait venir des femmes de Sicile ou de Calabre pour travailler ce qu'on appelle les mondines, Vous avez travaillé 14 à 15 heures par jour, des conditions dans le palud, enfin tout ce que vous imaginez, qui ne vivait même pas en ville, c'est-à-dire que vous avez une ferme, c'est en fait une mini-ville dans laquelle tout le monde était concentré, la plus grosse, hein, on peut mettre 1000 personnes dedans, quasiment presque un camp de concentration, hein, j'exagère un peu avec le nom, mais c'est l'idée. Et on faisait travailler ces gens-là pour récolter, repiquer le riz sur d'immenses surfaces. Hein. Et la troisième, c'est la naissance de l'Italie socialiste et révolutionnaire, parce qu'il faut savoir que en partir de 1900, toutes ces femmes qui étaient extrêmement nombreuses ont créé à peu près toutes les chansons révolutionnaires que vous connaissez, comme Bella Ciao, Leo Torre, etc. Mais sous d'autres paroles, parce qu'après les communistes s'en sont emparés, ont changé les paroles de ces chansons, et ont lutté victorieusement pour obtenir pour la première fois dans l'histoire des ouvriers en Europe les 8 heures de travail. C'est des femmes qui les ont obtenues dans les rizières de Vercelli. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant d'aller étudier ça. En plus de la ville de Vercelli, qui est très belle, avec un passé médiéval et moderne très important. Et puis surtout de voir comment on produit le riz, parce que ils vous accueillent, ils vous montrent comment aujourd'hui on fait ces riz qui servent à faire le risotto, hein, qui sont des riz spéciaux.
Vous avez une idée du temps que mettrait notre car pour arriver là ?
À peu près une heure de plus que pour aller à Turin.
Ça reste faisable.
Voilà.
À l'est de Turin.
À l'ouest. À l'est.
À
l'est de Turin, pardon.
Il y a beaucoup de familles qui viennent de Vercelli, là, en Maurienne.
En Maurienne, oui. Ah oui, oui, ah, bah, pour vous donner.
Tout ça, c'est toutes les familles de Vercelli.
Et puis même dans les périodes anciennes, hein, par exemple, souvent le secrétaire, l'avocat, la famille qui fait le secrétariat de l'intendant à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est les Astesano, ils viennent de là-bas. Hein. C'est de Vercelli. Tous ces noms qu'on voit.
Et à côté de cette intéressante perspective, vous évoquez une vallée bourgeoise et elles sont un peu moins loin, mais par contre.
Je pense qu'il faut à peu près autant de temps. Alors, là, ce qui est intéressant dans les vallées vaudoises, donc c'est. Il y en a deux, alors il faut choisir laquelle on peut aller. Hein, parce que
sinon, ça peut être autre chose.
Il y a la vallée de Luzerne, c'est deux vallées qui remontent sur le mont Viso, mais qui n'ont pas le même accès. Et la Germanasque, qu'on appelle aussi la République de Saint-Martin, donc avec Pereiro et Prali, qui étaient ce qu'on appelait les vallées vaudoises, et qui avaient une espèce d'autonomie dans le gouvernement des États de Savoie, c'est-à-dire qu'il y avait un intendant à Pignerol, mais cet intendant était obligé de déléguer son pouvoir à un personnage qu'on appelait le Podestat, et qui régnait sur des communautés avec un conseil quasiment hérité du Moyen-Âge, quasiment démocrate, presque démocratique. Hein. On vous a entendu parler des Escartons du Briançonnais, c'est l'héritier de ça. Hein. Et donc la République dite de Saint-Martin a duré jusqu'en 1778, avec son Podestat et son conseil. Son
ça
conseil.
A échappé aux mesures d'éloignement.
C'est une verrue dans le centralisme d'État, et c'est quelque chose de très intéressant, c'est pour ça que je me suis déplacé pour étudier ça, c'est-à-dire pourquoi là-bas, comme dans la vallée de Sesia, il y a des autonomies. Pourquoi ils ont gardé ça? Et j'avoue, pour l'instant, ne pas bien comprendre. C'est vrai qu'il y a, c'est le fond d'histoire religieuse, hein, de ne pas révolter, c'est des montagnards farouches qui ont embrassé le valdéisme, etc. Mais en même temps, à la fin du XVIIIe siècle, les Vaudois, il n'y en a presque plus. Même si ils sont autorisés, ils ont une autorisation spéciale, il n'y a presque plus dans les vallées, parce qu'on les a convertis, parce qu'on a racheté leurs terres, on les a asphyxiés économiquement. Alors, un truc marrant, à Pereiro, c'est la maison du converti, c'est un palais construit par Juvara, c'est un truc, un immense bâtiment baroque, tout en marbre, etc., au milieu des maisons de paysans, vous voyez. Et quand vous vous convertissez, vous abandonnez vos terres, donc vous devenez pauvre, et dans ce bâtiment, on vous donne à manger. Mais si vous devenez catholique, hein, évidemment. Hein. Et ensuite, on vous donne des terres, on vous réinstalle, etc. Ça s'appelle la maison du converti, c'est un musée, ça se visite. Il y a le musée des Vaudois à Prali. On pourrait faire un petit tour en télésiège, monter sur le plateau des Sept Lacs. Enfin, il y a des choses absolument merveilleuses là-bas.
Alors, vers quoi les uns et les autres préfèrent-vous aller?
Vous avez le choix. Le riz ou les montagnes.
Le riz, il n'y a pas que le riz à Vercelli, il y a donc ces monuments magnifiques.
Ah bah, il y a des cathédrales fantastiques, hein. Cathédrales, églises, et il y a des restaurants. Alors là-bas, on mange quelque chose qui s'appelle la panisse. C'est un risotto qui est fait avec de la graisse de porc et des abats. Et je peux vous dire qu'on se fait péter le ventre avec ça. Donc. Ça vaut le détour. La panne Nice, hein. C'est très très bon. Et vous pourrez en acheter en plus, puisqu'ils la vendent lyophilisée, toute prête. Juste à rajouter l'eau et la laisser 10 minutes, et c'est parfait.
Ce qui ne doit pas être le cas dans les vallées vaudoises, où ils sont inscrits maintenant à la Fédération protestante, et là, en Belgique.
Alors là-bas, la vallée vaudoise, vous allez manger de la charcuterie de pays. Ici, j'ai trouvé les deux restaurants, donc vous avez le choix. Hein. Les deux grands restaurants, les deux bons restaurants. Si on ne fait pas l'une une année, on fait l'un l'autre. Hein,
oui, pourquoi pas. Si le premier que l'on fait recueille un grand succès, on attaque l'autre dans les plus brefs délais.
Les deux sont intéressants. Bon, bah, la date.
On n'a pas fixé encore.
Oui, mais c'est Yannick qui peut le dire.
Ben, généralement, on la mettait fin septembre ou début octobre. Hein. C'était généralement, on partait pour les journées du patrimoine. Donc 16 ou 17 octobre, juillet, pardon, septembre, pardon, septembre. 17 ou 18 septembre, pardon.
Alors 17. Là, c'est notre patrimoine aussi, vu que nous faisions partie du même royaume.
C'est une idée, après, voilà, sinon.
Non, mais c'est bon, hein.
Le patrimoine piémontais, c'est aussi le patrimoine du Savoyard.
C'est plus court, oui.
Non, mais cette date-là.
16, 17, non, ça me va parfaitement. Enfin, le 17 ou 18, pardon.
Oui.
Le 10, si on le fait le samedi 17, parfait, par exemple.
Ben alors, on va peut-être opter, si vous êtes tous d'accord ici, vous servirez de comité de réflexion comme le conseiller scientifique. Pour dire, on opte pour cette date.
Voilà. Après, reste à savoir où vous voulez aller. Bon, on en parlera, on parle en détail de tout ce qui est possible.
Entre les deux, pour des questions probablement pratiques.
Tout ce qui est possible de faire. Oui. Mais les deux sont très intéressants. Et dans les deux, vous rencontrerez des gens vraiment merveilleux. Enfin, moi, c'est à l'occasion des travaux de ma thèse que j'ai rencontré tout ce beau monde. Et puis, c'est vrai qu'on fait de la gastronomie et du tourisme. Donc,